Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
En libérant la colère, nous pouvons laisser la colère nous libérer, nous sortir de la solitude glacée, nous rendre notre dignité, nous relier politiquement et émotionnellement, nous accompagner. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Lucille Bélan et Pauline Armange à l'occasion de la parution du livre collectif « Fruits de la colère » aux éditions Les Insolentes. C'est parti. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Bonsoir Lucille.
Bonsoir.
Pauline, tu es la coordinatrice de ce projet. C'est bien indiqué, sous la direction de Pauline Armange. Comment Fruits de la colère est né et comment tu as été amenée peut-être à sélectionner les autrices avec qui tu as travaillé, ou est-ce que c'était une réflexion avec la maison d'édition? Enfin, en tout cas, dis-nous tout.
En fait, si je me souviens bien, à l'origine, les éditions Insolentes étaient intéressées pour que, comme j'en avais un peu parlé dans Moi, les hommes, je les déteste, j'écrive un texte sur la colère. Et moi, particulièrement, j'avais pas grand-chose à dire. En fait, je trouvais pas que c'était très intéressant que moi, Pauline Armange, écrive un livre sur la colère. Parce que déjà, moi, j'avais pas particulièrement envie d'écrire un nouvel essai aussi vite après celui sur lequel je travaillais. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment une thématique qui méritait d'être traitée de manière chorale, parce que justement, les colères sont différentes et elles sont saisies différemment par les gens, etc. C'était un truc que je sentais un peu. Et c'est en fait notre agente, Julie Finidori, qui a eu l'idée de réunir des profils différents, des personnes avec des vécus différents et des plumes différentes pour en faire un texte, un ouvrage du coup collectif. Je vais pas du tout sélectionner quiconque, c'est plutôt des rencontres qui se sont bien faites et qui ont permis d'avoir un ouvrage hyper cohérent et qui aborde plein de thématiques tout en étant relativement court. Et moi, mon travail, ça a été d'essayer d'extraire un peu un fil rouge qui s'était dessiné hyper naturellement et d'introduire les textes pour après leur donner toute leur place.
Donc ici, Lucille, tu es avec nous puisque tu as contribué en écrivant un texte sur, alors ce que je dirais spontanément, sur la charge mentale, mais qui est encore plus vaste que ça. Ensuite, vous êtes accompagnée de Douce Dibondo, de Daria Marx, de Fatima Wasak et des poèmes de Kiemis. Ce qui donne évidemment un rythme, comme tu le disais, d'écriture très différente. J'ai apprécié le fait que Kiemis entoure, encadre les écrits qui sont parfois plus difficiles. Toi ici, Lucille, donc tu nous racontes une histoire, l'histoire d'une femme et de son quotidien. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez oppressant, alors que ce n'est qu'une histoire de quotidien. Et c'est peut-être de là, en fait, où il y a d'autant plus un problème. C'est qu'en fait, on arrive à se mettre en colère rien qu'en découvrant l'histoire de cette femme. Quelle a été ton inspiration première? C'était tout de suite de se dire, ça va être ce type-là d'écriture. On va pas être... On va parler d'une femme directement, en fait. Personnifier la colère, d'une certaine manière.
C'est quand j'en ai parlé avec Julie, pour la première fois, avant d'en parler avec les éditrices, avant d'en parler avec les autres autrices. Il a été question tout de suite que la forme soit libre pour tout le monde. Et donc, on a parlé des poèmes de Kiemis, mais du coup, il y a de l'essai pur, il y a du texte plus personnel avec le texte de Daria Marx. Et moi, en fait, j'ai traditionnellement un rôle un peu plus de journaliste. J'écris plutôt des essais. Et là, je sais pas pourquoi, mais même la première réunion, en fait, j'ai dit faites-moi confiance, mais même moi, je suis même pas sûre de faire confiance, j'ai envie d'écrire une fiction. Et c'est officiellement ma première fiction. Donc c'était un grand pas. Je pense qu'il y a eu deux mouvements de ma part, c'est-à-dire que je pensais que le thème était tellement énorme et tellement fort et m'a nourri à une sorte de nourrir un peu un feu qui m'a donné envie de sauter un pas que je ne saute que j'avais peur de sauter depuis longtemps, et aussi les autres personnes qui avaient autour de moi, cette espèce de collectif hyper fort de personnes que j'admire énormément et dont je savais qu'il allait avoir des textes qui allaient beaucoup m'émouvoir. Je voulais être à la hauteur de ça, et donc du coup j'ai débarqué avec donc cette fiction qui est vraiment vous verrez peut-être sous la forme d'une journée chronométrée, enfin avec des horaires, et du réveil le matin quand on va préparer le petit déjeuner pour toute la famille à l'endormissement assez tard. Et oui, ça parle de charge mentale, mais pareil, c'est pas du tout le drive que j'avais quand j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que mon but, c'était de raconter la journée la plus type possible du maximum de femmes que j'avais autour de moi. Et du coup, je raconte l'histoire d'une femme qui bosse dans une entreprise, elle fait du télétravail, donc elle a un compagnon, c'est un homme, il est un peu con, il fait sa part, mais bon, voilà, il est un peu, voilà. On est entre deux, quoi. Et elle a deux enfants, un garçon et une fille, on est sur... ils ont une petite maison, enfin... Et je voulais raconter cette espèce de cliché, comme ça, un peu de la ménagère de moins de 50 ans, mais d'aujourd'hui. Qui du coup est une femme qui a des doubles, triples journées, qui a énormément de pression, et qui se prend la colère de tout le monde et qui n'a jamais l'opportunité d'exprimer sa colère à elle. Donc ça parle de charge mentale évidemment, mais ça parle aussi de la colère des autres. Et elle se prend la colère de son patron, elle se prend la colère de son mari, elle se prend la colère des enfants qui n'ont pas envie de manger de quiche, elle se prend la colère de, globalement, sa famille, celle qui a été transmise par les mères, les grands-mères. Et donc, le but, c'était de raconter ça. C'était de passer d'abord par cette espèce de violence et de ce qu'on se prend, de colère des autres. Et de l'impossibilité d'exprimer la sienne, déjà de la vivre et de l'exprimer. Et donc, mon texte s'appelle « L'heure de la colère », puisque du coup... je sais pas si, bon, je vais pas vous spoiler de ouf, mais il y a une heure de la colère où c'est la seule heure où on puisse l'exprimer ou la ressentir, et c'est celle où personne ne peut l'entendre.
Dans tous les textes, c'est qu'il y a cette colère intériorisée. Enfin, vraiment, toutes les autrices vont en parler de ce moment où en fait on boue à l'intérieur et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc c'est vrai que là, pour le coup, le titre est assez bien choisi puisque c'est ce passage-là. C'est en fait on la garde et après on en fait quoi? Toi, Pauline, qui a eu un regard de cette, enfin, ou en tout cas une lecture de tous les textes au fur et à mesure, ou est-ce que tu savais d'avance de quelle forme allaient prendre en fait les textes des autrices, ou ça a été vraiment la découverte sur la façon de les traiter?
Je crois que t'avais dit que tu voulais faire la fiction, donc moi j'étais trop contente parce que comme on était plutôt parti sur un ouvrage collectif avec des personnes qui ont l'habitude d'écrire une forme plutôt de non-fiction, je m'attendais à lire que ça. Au final, du coup, j'ai eu mon petit cadeau à moi. ce qui s'est dégagé quand je lisais quand les textes arrivaient, pas du tout en même temps, pas du tout forcément non plus à des mêmes stades de produit fini, entre guillemets, c'était que on est sur des profils d'autrices très différents. Pour ça que ce livre existe, et en même temps il y a cet élément qui est commun, qui est de pas savoir, enfin de voilà, d'avoir cette émotion hyper vive et hyper compliquée à exprimer en public, pour différentes raisons d'ailleurs. C'est pas toujours pour la même raison, ça va pas être pareil pour le personnage de Lucille que pour les mères racisées dans le texte de Fatima par exemple. Et en fait, c'est un besoin urgent de transformer ça pour pas se retrouver grignoté de l'intérieur. Et je trouve aussi que ça, c'est ce que montre bien aussi le texte de Daria, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un besoin même physique en fait de venir transformer ça. Et c'était impressionnant. Je pense que c'est pas que du hasard, mais c'est vraiment un fil qui s'est vraiment dessiné hyper naturellement à la lecture des textes. C'était clair comme de l'eau de roche.
Oui, il y a eu une sorte de synergie naturelle entre eux. Je pense aussi parce qu'on a une admiration partagée, parce qu'on a un respect pour les parcours, parce qu'on a une confiance. Et donc, quand on a abordé chacune là où on voulait partir, plus ou moins, c'est-à-dire que la première réunion, on n'avait pas grand-chose. On arrivait en disant, bon, alors moi, je parlais de ça, 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 avec des mots-clés, quoi, et pas plus loin que ça. Et cette réunion-là, quand elle a mené après à des textes qui ont été plus ou moins les textes finaux, enfin, je veux dire, il y a eu des réécritures, évidemment, mais c'est, il n'y a pas eu des réécritures majeures. En plus, il a même été clair de l'ordre dans lequel on allait les mettre dans le livre. C'est-à-dire que la réunion où on a lu tous les textes et on a pu chacune lire chacune nos textes un petit peu aux autres et confronter nos idées, vraiment, on s'est posé 3 secondes et on a dit, mais en fait, c'est super logique l'ordre. Il n'y a même pas besoin de tirer au dé ou de décider par ordre alphabétique de machin, de trucs. C'était un ordre évident, quoi. Et ça, je pense que c'est une vraie chance. On n'a pas eu de problématique d'ego, on n'a pas eu de problématique de questionnement hyper chiant. On s'est concentré sur le texte et le sens et la politique et ce qu'on voulait dire. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très, très cool.
Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que donc on est sur une œuvre collective et que c'est un petit peu en dehors de ce fait de cette colère intériorisée. Il y a aussi ça, le principe du collectif et de transformer en fait la colère en œuvre politique. C'est vraiment l'expérience en fait, comme on peut l'encourager le mieux, parce que tout ce qui est l'ordre de la manifestation, du dire, de se soutenir à parler, etc., c'est vraiment pour faire collectif et donc après pour faire politique. Alors c'est vrai que pour le coup, c'est Fatima et Douce qui vont vraiment avoir les mots politique et collectif, et enfin il y a quelque chose vraiment du programme en fait, je trouve qu'elle déroule, mais si on regarde bien dans les autres textes, il y a aussi ça, enfin Kiemis avec sa poésie va être aussi embarquante de dire, bon, bah, maintenant qu'on a ressenti ça, en fait, la meilleure façon, c'est d'avancer ensemble, de faire les pas ensemble, etc. Où en est votre colère à vous aujourd'hui ? Parce que quand on écrit un livre comme ça, on se replonge dans un endroit de colère que peut-être on avait un petit peu dépassé. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, on espère, parce que dans ton intro, Pauline, tu parles de ce moment où on a toute l'impression, quand on est engagée, militante, ou en tout cas dans la lutte, on se souvient, en fait, du moment où on s'est dit qu'on était en colère. On se dit, ah oui, c'est vrai, en fait, je suis en colère. Comme s'il fallait une reconnaissance de ce moment pour pouvoir avancer dans la lutte. Enfin, en tout cas, moi, je le vois très clairement. Je me souviens du jour où je fais, waouh, en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est parti. Et de ce fait, je me suis dit, mais... Enfin, heureusement, je suis plus cette personne-là, parce que sinon, je pense que j'aurais cramé sur place de toute cette colère-là. Et toutes les lectures, les rencontres, ça a permis d'avancer. Mais de même, là, de ce fait, je me dis, vu vos carrières d'autrice, de penseuse, des féminismes, ben, j'espère que vous n'êtes plus dans cette même colère aussi vive. Mais en même temps, d'écrire ce livre, ça a dû quand même demander de s'y replonger. Donc, vous en êtes où de votre colère, si on peut se permettre cette question, évidemment.
Mais vas-y, parce que quand on écrit de la fiction, c'est en plus un truc hyper particulier, je trouve.
Oui, alors ça m'a mis dans une sorte de... Bah, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai. J'étais assez fragilisée par l'écriture de ce texte, parce que donc, j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas le recul. J'avais juste un nombre de signes, parce qu'on a une place définie dans le livre. Et je suis partie à l'aventure comme ça. Et écrire toute cette espèce de violence... m'a mis dans un état pendant plusieurs jours de grande violence qui a été un peu difficile à vivre. Mais en fait, moi, je fais partie des gens... Quand Julie m'a parlé pour la première fois de cette histoire du thème de la colère, je lui ai dit, mais je suis la personne la moins en colère qui existe sur Terre. C'est-à-dire que j'arrondis les angles tout le temps. Justement, je passe mes journées à essayer de calmer mes enfants, à calmer les gens. Je suis la personne pas en colère dans la vie. Et en réalité, c'est faux. J'arrive à me mettre en colère et de façon extrêmement violente pour les autres. Ma colère s'exprime beaucoup plus facilement pour les autres. J'ai un engagement sans limite pour les inégalités, pour plein de raisons différentes, diverses et variées, pour même des gens que je ne connais pas. Ça peut me rendre dingue de colère. Mais moi-même, ma colère est hyper silencée pour plein de raisons, un peu en partie celle de Daria en parle dans son texte. Il y a aussi toute une question d'éducation, Douce en parle aussi. Enfin, c'est pas les mêmes éducations, mais la question se pose de la non-transmission de la colère, qui est quand même un sentiment primaire, quoi, que tout le monde ressent et doit ressentir, c'est important. Et travailler sur ce texte m'a fait réaliser que, bah ouais, en fait, quand est-ce que je criais ? En plus, moi, je fais partie de la génération des espèces de mamans blogueuses hyper parentalité positive, alors du coup, jamais on s'énerve, il faut toujours trouver une autre solution, un truc et tout, une négociation. Et donc, parce que j'ai connu la génération des parents qui font que gueuler sur leurs enfants, donc il y a un truc aussi, on se construit en opposition à. Et donc on se dit, je veux pas être cette personne qui crie, je veux pas être cette personne qui est en colère. Et ce texte, il m'a permis vraiment un peu de défricher tout ça. Parce que cette femme qui est donc en réalité en colère, même si elle a pas l'air en colère ou qu'elle fait les trucs, elle est en colère aussi contre sa mère, elle est en colère contre sa collègue qui a l'air parfaite, ou qui gueule, mais du coup on prend au sérieux le fait qu'elle gueule, alors que si elle ouvre la bouche, on l'écoutera pas ou on la trouvera chiante. Et cette espèce de non-sororité aussi sur cette question-là de la colère, j'avais envie d'en parler, quoi. De sentir hyper... Il y avait une solitude dans mon texte. Mm-hmm. Et c'est ressorti, oui, par l'écriture, vraiment. Parce que je me serais posée assise sur une chaise en me disant, bah alors, la colère, qu'est-ce que j'ai à en dire? Bah, j'ai à en dire ce que toutes les féministes ont à en dire, c'est-à-dire que c'est hyper important pour le combat et la lutte, mais que c'est aussi extrêmement drainant et fatigant, et que le burn-out militant est un truc qui est réel, et qui est aussi qui est aussi nourri par la colère. Donc on peut vraiment se bouffer par la colère, à la fois en l'exprimant mais en ne l'exprimant pas. C'est assez dangereux comme sentiment, mais c'est ça qui en fait un sentiment passionnant. Et moi j'étais un peu sur cette espèce de statu quo, genre c'est les autres, c'est pas moi. Et ouais, non, en fait, en réalité, non. Donc, est-ce que je me dis maintenant, faut que je rattrape ma colère? Ce qui est une des problématiques du texte de Daria. Je pense pas. Au contraire. Et je pense que les réponses qu'on a apportées, alors on n'apporte pas des réponses magiques hein, aux gens en colère, ça se saurait, mais les réponses qu'on a essayé d'apporter et le fait qu'on soit retrouvés sur des sentiments communs m'ont touché énormément et apporte des trucs, c'est-à-dire la réflexion sur le collectif, la réflexion sur des changements de société, enfin majeurs, sur la façon dont on traite les femmes de manière générale. C'est pas un truc que j'ai découvert, hein. mais en bossant sur la colère avec d'autres personnes qui avaient d'autres approches du féminisme, c'est nourrir aussi avec des réflexions intelligentes et construites. Mmh. Et pas juste avec une colère qui brûle tout et qui nous brûle au passage, quoi.
Moi, j'avais cette posture particulière de superviser un peu, d'essayer de voir comment les textes se répondent, etc. Et en fait, je me souviens qu'à la première réunion où on s'est rencontrés pour la première fois, chacune dit bon, moi je voudrais parler de ça, voilà, des mots clés, des trucs. Et en fait quand vient mon tour, je réalise que moi je n'ai rien à dire et que c'est aussi pour ça que c'est pas mon livre et que c'est notre livre, et que j'avais vraiment envie d'apprendre de chacun des textes pour moi me resituer, parce que je me souviens que quand j'ai sorti Moi les hommes je les déteste, les gens s'attendaient à ce que je sois beaucoup plus énervée que ce que je suis en réalité. Je suis un peu comme toi, je suis pas quelqu'un de très énervé dans la vie. Et parce que j'avais déjà fait ce travail de moi transformer ma propre colère militante, j'étais déjà engagée dans un collectif, donc j'avais l'impression que moi j'avais fait mon taf. Et du coup je ne voyais que ce truc qui était assez facile, c'est simple, vous êtes en colère, allez dans une asso. Et je voyais pas qu'il pouvait y avoir plein de freins, qu'on pouvait se sentir hyper seul, qu'on pouvait être empêché politiquement, socialement, etc., d'exprimer, de vivre sa colère. Et moi, j'avais vraiment envie d'apprendre. Et j'ai appris tellement de trucs en bossant sur ces textes. Ça m'a mis dans une posture hyper humble. Et c'est pour ça que l'intitulé Sous la direction d'eux, ça me gêne. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien dirigé. J'ai absorbé plein de trucs et j'ai essayé de faire en sorte que, pour les gens qui lisent la préface, ce qui n'est pas mon cas en général, du coup, il y a une espèce de chemin qui se dessine peut-être plus clairement. Et je trouve que c'est hyper... Enfin, en tout cas, ouais, moi, ça m'a remise sur l'idée que je suis pas seule au monde. Et des fois, ça fait du bien aussi. Mais pas seule au monde dans le sens à vivre, mais aussi que ma manière d'expérimenter les choses n'est pas la seule et unique manière. Et ça m'a fait vachement de bien de me rendre compte que... Enfin, de me re-rendre compte qu'il y avait plein de freins à la colère, qu'il y avait plein de manières de la réutiliser aussi. Et que ma manière à moi me fonctionnait, mais que ça pouvait pas être la réponse forcément pour tout le monde, et qu'on avait besoin d'une multitude de réponses.
Oui, et c'est vraiment quelque chose sur laquelle tu insistes, c'est de dire que c'est une proposition de réponse, mais qu'il y en a énormément d'autres. Et alors que je trouve que déjà, en fait, dans les textes présents, il y a déjà une pluralité qui a plutôt été rare, en fait, combinée dans un même livre. C'est-à-dire que souvent, les paroles plus intersectionnelles, on les laisse entre elles. Et là, j'ai vraiment apprécié Parce que bon, bah, on a reçu Fatima Wasak il y a quelques années maintenant, et c'est vrai que c'était tout un univers qui s'ouvrait. Et je pense que quand on rencontre Fatima Wasak, il y a quelque chose, mais comme avec Douce Dibondo, il y a quelque chose de ah oui, waouh, enfin, ou Marie da Silva, ou enfin voilà, sont des femmes qui portent en fait un autre type de colère. Et c'était chouette qu'elle puisse revenir sur le fameux stéréotype de la femme noire en colère, dont on a déjà parlé avec les films, avec les séries, etc., notamment avec Pauline Le Gall, de se rendre compte qu'en fait, la colère, on pourrait tous et toutes la décrire de manière hyper stéréotypée, que ce soit sur nous, comme on disait, avec intériorisé, où on n'a pas l'air en colère, où c'est beaucoup à l'intérieur, comme ton personnage, en fait, elle n'a pas l'air de l'extérieur, être en train de bouillir comme ça. Et puis d'autres femmes qui vont être complètement accaparées de celles qui hurlent tout le temps, et de se dire qu'en fait tout ça c'est des stratagèmes pour nous silencier. En fait, c'est toujours la même chose. Si on nous fait penser tout le temps qu'on n'est pas capable de dire sa colère, bah, c'est sûr qu'on va pas avoir les clés pour la dire. L'un des passages aussi qui revient souvent, c'est le principe de gueuler sa colère, de hurler sa colère, d'Aria Marx, et Kémis en parle notamment. Je me dis, vous avez fait une séance genre, où vous avez toutes hurlé d'un coup, en disant purée, à la fin de ce livre, on l'a fait, et nos colères, en tout cas nos fruits de la colère à nous, sont sur le papier, quoi. Ou c'est juste moi qui fabule un peu ce moment de sororité hurlante.
Ça aurait été trop bien.
On mais oui, imaginer un truc un peu de coven et tout, genre. Mais
hurlante.
Alors non. Mais surtout qu'en plus la réflexion là-dessus, c'est quand même que c'est aussi pas une fin en soi sur la question de Daria précisément, qui parle de la violence et de l'expression de la violence et d'une forme de réponse féministe par. Par les agressions aux hommes, en fait. Elle raconte dans son texte qu'elle a eu une période où elle se permettait de donner des coups de casque de scooter dans les bagnoles des personnes qui se garaient mal, des mecs qui étaient cons avec elle. Enfin, je veux dire, il y avait tout un truc d'expression de la colère physique. Et ça, c'est une piste très intéressante. Enfin, moi, je trouve que c'est une piste de féminisme même très intéressante. Et en fait, la question qu'elle s'est posée, c'est aussi qu'est-ce que ça lui a apporté. Et en dehors de la prise de risque à titre personnel, c'est aussi peut-être beaucoup moins épanouissant et cathartique que ce qu'on pourrait croire. Donc non, on n'a pas crié. Je sais toujours pas crier personnellement. Mais ouais. Donc je pense qu'il y a plein de... On a vécu des beaux moments en lisant nos textes entre nous. C'est difficile avec le Covid, puis même de manière générale, de se prendre dans les bras et de dire ça m'a fait du bien. Mais moi, je sais que je suis vraiment très émue à la lecture de ces textes que j'ai relus plusieurs fois depuis qu'on a travaillé dessus. Et c'est un trait collectif dont moi, je suis très, très fière.
En fait, ce qui est d'autant plus important, c'est qu'il faut absolument se poser la question de ce qu'on fait de nos colères. Et c'est assez chouette de voir que c'est des thématiques en fait qui intéressent, enfin qui en tout cas sont sur la langue de beaucoup d'autrices en fait. On a reçu Taous Merakchi, il y a Lorraine Bastide qui est venue il y a pas longtemps, et de se dire mais en fait ça c'est un endroit qui peut nous perdre comme nous élever dans nos luttes, mais en tout cas il faut pas rester dans un entre-deux gênant en fait. Et le fait d'apporter des solutions comme ça, c'est en tout cas des pistes de solutions, parce qu'il ne faudrait pas non plus se dire on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, évidemment, et tu fais bien attention à ça, Pauline, dans ta préface, de prévenir, mais de donner des pistes, en fait, des choses, de se dire mais vous n'êtes pas seule avec votre colère, en fait, on est une armée en colère, en fait. Bon, même si le langage armé, tout ça, on n'aime pas, en même temps, il y a ce principe aussi de faire collectif par ça. En fait, cette thématique-là, elle est marrante parce que d'une certaine manière, on a tout envie d'hurler dans les... Et en même temps, on voudrait que ça se passe autrement, en fait, aussi. On voudrait que les choses soient entendues sans qu'on ait à hurler, tout simplement. Et comme vous avez commencé à faire des rencontres, à avoir des retours de lecture, de lectrices, lecteurs, est-ce que y a eu des partages d'autres solutions au fur et à mesure en ligne ou...
Moi, on m'a posé surtout des questions, c'est un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, physiquement. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup un moment où, au fur et à mesure de la discussion, tout le monde est un peu, on est un peu polissé, poli, et tout, on apprend à se connaître. Et puis, vers la fin, on commence à me dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les armes? Est-ce que ce n'est pas une solution de faire des expéditions punitives? Et j'ai vraiment eu cette question dans une rencontre. Il faut quand même toujours se protéger d'abord, et que quoi qu'on fasse, en tout cas, il y a des... Il y a des... Voilà, on peut faire ce qu'on veut dans la limite de, dans la, limite de la légalité. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Les Orageuses, sur cette, qui est un livre magnifique, un roman sur, sur la question de l'expédition punitive et qui donne une piste également sur l'utilisation de la colère. Mais ouais, c'est surtout ça en fait. J'ai senti, moi, le truc de qu'est-ce qu'on peut faire en vrai parce qu'on sait qu'on ressent la même chose. Maintenant, on arrive à l'exprimer un peu plus, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on sait que la solution, c'est pas, ben, donc je disais, de gueuler sur ses enfants, c'est pas non plus d'énerver encore plus son conjoint qui est peut-être dangereux, si c'est un homme, c'est pas des solutions, ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et il y a vraiment une demande de ça, parce que après la théorie vient évidemment la pratique. Enfin, je pense qu'une des réponses à ça, c'est effectivement la question associative et aussi le retour à un collectif même de terrain. C'est-à-dire, j'ai demandé aux gens à Lyon en l'occurrence, c'était des femmes évidemment, en grande majorité, si elles connaissaient leurs voisines en fait. Si elles savaient s'il y avait des vieilles personnes dans leur immeuble, si elles avaient déjà dit bonjour ou parlé ou demandé si quelqu'un avait besoin d'un truc. Donc on n'est pas forcément toujours sur une violence du punitif des trucs, mais peut-être aussi revenir, le mot sororité est très galvaudé, mais et on va un peu un gros mot maintenant, mais globalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider les gens, quoi? Enfin, aider les gens, non, aider les femmes en fait. Aider les personnes minorisées de manière générale, c'est-à-dire pas juste des femmes qui nous ressemblent, ce qui est aussi une autre problématique. Donc, moi, je pense que c'est s'intéresser aux autres, une des réponses aussi.
Oui, je pense que c'est un truc qui sous-tend le livre. Quand on parlait de la solitude du personnage dans la fiction de Lucille et de tous ces endroits où on se sent seul. Et du coup, je reviens à ce que je disais au début et qui est ma réponse à moi, ça a été de m'engager dans l'associatif. Mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on a tant de mal, et c'est ce que disent Fatima et Douce aussi dans leur texte, à changer le monde, c'est qu'on est tout seul, chacun dans notre coin, avec notre petite colère, et qu'on a du mal à voir sa portée systémique et sa portée politique, et qu'en fait, toutes les manières de faire lien ensemble, que ce soit de manière formelle, ou juste aller taper à la porte pour voir si tout va bien, c'est une manière de remettre de l'humain dans la société. Et en fait, c'est aussi... c'est peut-être ce qui manque le plus, et ce qui fait que tout va si mal aussi, donc... Et donc, d'où émane notre colère, d'une certaine manière. Donc, je suis d'accord.
Ce dont je parle dans mon texte aussi, c'est que, bah, du coup, cette fameuse solitude, c'est aussi une arme des oppresseurs. C'est-à-dire que les autres femmes sont un danger, elles peuvent vous piquer votre mari, elles peuvent vous piquer votre travail, elles sont plus performantes, de meilleures mères potentiellement. Donc du coup, à chaque fois, on se sent antagonisé, on est moins bien, on est nul. Du coup, on n'a pas l'idée d'aller voir les autres femmes pour parler. Et ça, c'est complètement une arme du patriarcat qui est vraiment facile, enfin je trouve facile, à petit geste par petit geste, sur lesquels on peut vraiment travailler concrètement.
Ça me fait penser, c'est marrant, ça fait plusieurs fois cette semaine que je parle de ce livre Symptômes de Catherine Oslo aux éditions Popo, une maison d'édition québécoise, qui parle de ces fameuses solitudes et des liens entre les femmes notamment, puisque là on parle d'un cercle de femmes, et de se dire qu'en fait, quand on se parle les unes les autres, vraiment, en fait, il y a une sorte de lien incassable entre nous et qui nous suit partout, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est assez beau, je trouve, comme image maintenant, en fait, de se dire qu'on vit des situations certes différentes, mais en vrai communes. On a des choses qui, par la force systémique, nous rassemblent et qui font qu'en fait, on est une sorte de meute, en fait, de femmes... en connexion, quoi, ou de personnes minorisées, parce qu'il y a des choses, voilà, qu'on va retrouver, évidemment, parce qu'on est face à un oppresseur commun, et c'est, ouais, c'est assez beau, je trouve, ce lien-là qui nous unit, c'est doux.
J'ai découvert dans les cercles de femmes, qui était un truc que je connaissais pas, que j'avais jamais pratiqué à titre perso, et pour lesquels je me disais ça va être un peu ésotérique, je sais pas ce que je fous là, qu'est-ce que je vais dire, machin. Et j'ai déjà la flemme d'aller chez le psy, alors bon, est-ce que j'ai vraiment envie de parler devant des gens que je connais pas. Et en fait, il se passe toujours un truc complètement dingue dans ces moments. Un vrai sentiment de, ouais, de partage, mais qui est dans l'air, quoi. Et en plus, bon, moi j'ai été à celles qui sont dans une librairie à Paris qui s'appelle Un livre et une tasse de thé, qui sont au milieu de la librairie. C'est un peu comme si on faisait un cercle là maintenant avec des bougies et tout. Et après la fermeture, et du coup, il y a ce truc là de, ouais, de moments un peu hors du temps. Et je trouve qu'il est vraiment mais incroyable. Et c'est marrant parce qu'on a des trucs assez souvent assez difficiles à dire, parce que le principe des sacs de parole et des tentes rouges en particulier, c'est quand même sur des choses qui peuvent être, ouais, traumatiques, qui peuvent poser des questions dans la vie. On vient déposer une parole, donc qui est souvent un peu difficile. Et pourtant, on en sort avec le sentiment d'avoir été grandi par cette expérience-là qui a été vécue par quelqu'un d'autre, mais qu'on a peut-être partagé, ou qu'on a peut-être pu aider aussi en parlant 3 secondes après, ou en se faisant un petit signe, un petit clin d'œil ou un truc. Mmh. Et je trouve que c'est des grands moments en général. Et on n'y pense pas, mais tout le monde peut faire son sac de parole, en fait. Enfin, globalement, il y a des règles, et on fait pas n'importe quoi avec la psyché des gens, mais on peut se retrouver pour parler de trucs en vrai. Mmh. Vraiment. Et ça peut être vraiment incroyablement beau, quoi. Et ouais. J'ai découvert dans les cercles d'écriture aussi, du coup. Mais il y a ce truc, en fait. Regroupons-nous par groupe de 5 à 10, déjà, c'est pas mal. Et faisons des activités ensemble. Parce qu'en fait, c'est pendant... Il y a une construction commune, en fait, aussi. Il faut avoir des projets, des choses. Je trouve ça... En général, ça tire des choses. On se sent mieux après. Mm-hmm. On se sent grandi.
Il y a quelque chose de l'ordre d'un peu de la vulnérabilité aussi, de laisser entrer, parce que comme tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, on n'est pas dans des périodes de partage hyper spontanées, je veux dire la pandémie elle a quand même créé une distance entre les gens, et de se dire qu'en fait des inconnus peuvent partager des choses intimes sans que ce soit gênant, hein, des situations juste de nos vies privées, et que ça puisse permettre en fait de casser cette solitude qui a été due par la crise, etc., et par des années de capitalisme, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas anodin qu'on soit dans nos solitudes, en fait, parce qu'on est des consommateurs et consommatrices quand on est seul. Mais dès qu'en fait, on parle avec des amis, qu'on recrée du lien avec d'autres personnes, d'autres... Ben, en fait, on a moins besoin, en fait, de se trouver des distractions, et c'est, ouais, c'est en même temps ces endroits de vulnérabilité-là, et en même temps, en fait, des extrêmes richesses de retrouver un lien plus simple, en fait, dans nos vies, quoi. Et tout ça grâce à la colère. Incroyable.
Quand t'écris un livre, t'es une personne toute seule qui n'est pas particulièrement unique ou extraordinaire. Et des tas de gens vont le lire, si tout va bien. Et ensuite, si tout va bien aussi, ils vont venir te dire que ça leur a parlé à un moment donné. Pas forcément sur les trucs où tu te dis « Ah, ça, c'est universel, en plus. » Et ça m'a toujours fait penser, et ça s'est confirmé à chaque fois que j'ai animé des ateliers d'écriture, par exemple, que, en fait, l'objet livre, il est pratique parce qu'il est diffusé de manière massive, mais qu'en fait, ce qui est important, c'est de parler vraiment, en faisant attention au choix des mots, mais surtout en étant dans... un partage sincère, enfin j'utilise plein de mots qui sont hyper niais, mais qui sont, enfin voilà, et qu'en fait justement quand on décide d'avoir des échanges sincères et honnêtes avec quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être écrivain, il n'y a pas besoin d'être orateur pour pouvoir retrouver une forme de contact qui a du sens et qui permet de briser du coup cette solitude de l'individualisme consumériste. Et je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, c'est pas du tout anodin qu'on soit tous tout seuls et misérables. et en fait, il n'y a pas non plus besoin de grand-chose pour retrouver un peu plus d'étincelles.
J'ajouterais qu'on nous a habitués à ce que nos moments de sociabilisation en groupe soient dans des endroits où on ne peut pas parler et où tout le monde finisse plus ou moins alcoolisé. Il y a pas mal de féministes qui se posent la question effectivement de la consommation d'alcool chez les femmes de manière générale, mais globalement dans notre société et en France. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de se retrouver pour des moments hors de 3 pintes et autour d'un projet commun ou autour d'une envie de parler vraiment sans musique trop forte, sans machin, sans dragueur relou et sans se dire sans arrêt que quelqu'un a mis un truc dans mon verre. Qui du coup bloque en fait tout le reste, bloque tous les sentiments, bloque tout ce qu'on peut dire, bloque... On va jamais en profondeur dans ces cas-là. Donc du coup, repenser un peu notre façon de voir des gens aussi. Mm-hmm.
Oui, c'est crucial. Ouais. Bon, ma question. Est-ce qu'elle tue tout le monde? Est-ce qu'elle se réveille le lendemain matin et qu'elle décide que sa famille, c'est fini, quoi? Parce que vraiment, ils sont très oppressants.
Son mari est vraiment un con. Hein. Ouais. Vraiment, dans le fond, j'étais là, mais genre, ah, quitte-le. Et après, j'étais là, genre, oui, mais je sais, moi aussi, j'ai eu besoin de plusieurs années pour quitter des gens. mais bien sûr, évidemment. Et j'espère qu'à la fin de cette nouvelle, on se dise pas, putain, cette meuf, elle a quand même une vie de merde. Franchement, pauvre meuf, quoi. Ça m'a touchée parce qu'il y a pas mal de femmes qui m'ont dit, mais en fait, ça raconte un peu ma vie. Alors, j'étais un peu genre. Je sais, moi aussi, ça raconte un peu ma vie, mais bon, dommage. Est-ce qu'elle tue tout le monde à la fin? Je ne veux pas répondre à cette question parce que j'ai aussi un goût particulier pour le genre de manière générale, et donc je pourrais écrire une suite complètement dans le genre, si on veut. Mais puis voilà, il y a pas que les hommes qui ont le monopole de tuer leur famille et de les mettre sous la terrasse. Mais elle pourrait trouver le moyen de s'échapper et de ne jamais être retrouvée. Sans, elle n'est pas plus con qu'une autre. Voilà. Mais la question du passage à l'acte, évidemment qu'elle se pose. Mais elle se pose de plein de manières différentes. Je sais que moi, j'ai eu un passage à l'acte différent, par exemple, pour l'expression de ma colère ou de mon mal-être à un moment dans ma vie. Ça peut être... on n'a pas obligé de tuer ses enfants non plus. Je ne sais même pas. Je crois que... Non, il n'a pas de fusil, ce mec-là. Enfin, j'espère. Il manquerait plus que ça, en plus.
Déjà, c'est un chasseur.
C'est ça. Vraiment, il a l'air un peu de droite. Enfin, si en plus il a
un peu.
Vraiment, on l'aime pas trop. J'ai écrit un personnage que je n'aime pas du tout.
Ce qui doit être quand même assez intéressant à écrire.
Mais ça coule tout seul. C'est incroyable.
On voit tout de suite comment ce qui peut le rendre détestable.
Ah, mais vraiment, il a un visage, il a une vie, il a des études. Enfin, vraiment, pour moi, c'est tellement de gens que je connais. Mais même pas une personne. C'est-à-dire qu'on m'a posé la question, on m'a dit, allez, en vrai. C'est si dur, tu parles vraiment de ta vie, y a mal à machin. Et je dis, mais en fait, pas forcément totalement, parce que en fait, tout le monde en connaît des mecs nuls comme ça, en fait. On a toutes. Alors, si c'est pas vraiment notre mec, ce qui malheureusement peut arriver, c'est forcément le mec d'une copine, en fait. Et vraiment, là, je pense que dans cette pièce, on peut faire une liste de 50 gars qui sont fous, hein, vraiment, sans se fatiguer très longtemps. Ouais. Et je dis 50, je suis. Et du coup, ouais, donc ça sort tout seul, bizarrement. J'ai pas appelé Jean-Michel, quoi.
Ça aurait été.
Je me suis canalisée. Bon, il a pas un âge à s'appeler Jean-Michel. Il aurait pu.
Oui.
Saint Jean-Michel au fond, dans 20 ans, Saint Jean-Michel.
Dans 20 ans. Bon, on va lui souhaiter de changer, hein, de se prendre une bonne colère.
Ça se voit que t'as reçu Lorraine Bastide il y a pas longtemps. T'es dans.
Ouais, je suis dans la phase. Dans la réformation. Bon, allez, d'accord, on va faire un dernier effort, on va les inclure. Mais non, mais ça fait partie d'une certaine réponse à nos colères d'inclure. Oui. Même si c'est assez drôle de voir comment les rencontres sont bien choisies et se répondent et s'entrecroisent. Se dire qu'en fait, on essaye toutes là de trouver des réponses en fait, à tout ça, à tout ce qu'on vient de vivre, à ces 6 dernières années particulièrement, mais aux précédentes aussi. Peut-être qu'on a aussi besoin de trouver ces endroits où on peut être plus posé, plus calme, plus heureuse, plus joyeuse. Merci beaucoup pour ce moment de partage intense et en même temps très joyeux. Donc nous n'étions pas en colère, hein ? Nous avons partagé toutes ensemble et c'est très bien. Merci Pauline. Merci Lucille.
Merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Pauline Armange et de Lucille Bélan à l'occasion de la parution de Fruits de la colère aux éditions Les Insolentes. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.